Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 35, le chapitre 387 de Mission Encre Noire qui commence. L'aventurier littéraire existe au travers de deux hommes, l'un initié, l'autre aspirant. L'un a connu l'action, l'autre la rêve. Cette attirance mystérieuse qui lie ces deux êtres est centrée sur l'idée de la mort. Et tout à coup, Claude découvrit ce qui le liait à cet homme qu'il avait accepté, sans qu'il comprît bien pourquoi. L'obsession de la mort. L'aventurier qui se raconte est un mort vivant qui n'a pas su véritablement mourir. L'aventurier raconté est un héros dont la mort glorieuse recouvre le mystère. Ainsi pensé, l'aventure devient entre deux hommes le récit d'une mort sublimée que l'on a manquée ou à laquelle on a assisté. Le couple aventureux par la parole, par le regard, par des actions transgressives, s'excite pour atteindre l'état suprême d'aventure, cet équilibre des plus ténus entre la vie et la mort. L'aventure moderne littéraire réside en cette excitation. Ses gestes, ses regards, ses paroles, qui sur fond de mort questionnent les possibilités, les limites d'une chair en déréliction, abandonnée des rêves et de Dieu. Or, je rappelle ici la définition fondamentale que Georges Bataille donne à l'érotisme. De l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Équilibre vital entre la vie et la mort, l'érotisme épouse ainsi étroitement la logique de l'aventure. Ou plutôt, l'aventure serait un érotisme au sens de Bataille et l'aventurier une figure éminemment érotique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du jeu du rêve et de l'action, une étude du roman d'aventure littéraire de l'entre-deux-guerres français par Paul Kausack, paru en 2022 aux éditions Nota Bene. Il y a deux ans déjà, le roman « Ténèbres » de Paul Kausack nous plongeait dans une aventure crépusculaire, envoûtante et gothique, où un géomètre belge débarque en mars 1890 dans un port du Congo. La violence coloniale fait rage au cœur de la forêt impénétrable et menaçante, un épisode sombre quasi génocidaire qui a fait 10 millions de morts. Or, non seulement l'écrivain s'initie un magistral roman d'aventure traversé d'érotisme et de magie noire, il révèle une affection érudite pour un genre, l'aventure, dont la source pourrait se situer dans la rédaction d'une thèse de doctorat présentée ici, revue et corrigée. Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad, Blaise Cendrars, Joseph Kessel, André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry, André Gide et bien d'autres deviennent sous la plume savante de l'auteur les personnages clés d'un temps glorieux où le roman d'aventure littéraire supplante le roman d'aventure traditionnel. Avertissement d'usage, il est bien possible que D'Artagnan succombe aux assauts érotiques de Cixiao, maître bourreau chinois, personnage fascinant de Ténèbres, ce soir à Mission Encre Noire, alors que je reçois l'auteur Paul Kausack. Bonsoir Paul.
Bonsoir Eric, ça va bien ?
Ouais, ça va très bien. Tu es né en 86 à Besançon, dans l'est de la France. Tu es docteur en lettres de l'Université du Québec à Chicoutimi et de l'Université de Franche-Comté. Tu vis depuis 2011 au Québec. Tu es éditeur, chargé de cours et auteur. Ton roman d'aventure Ténèbres a reçu une dizaine de récompenses, dont le prix des libraires du Québec, le prix littéraire des collégiens du Québec et la mention spéciale du prix des cinq continents de la francophonie. Alors, puisque cet essai est le résultat de ta thèse de doctorat, d'où vient cet intérêt pour le roman d'aventure avec un grand A, comme le stipule Pierre-Marc Orlan dans l'introduction? Et surtout, pourquoi avoir choisi ce moment de l'histoire, en particulier l'entre-deux-guerres français, qu'on peut situer entre 1850 et 1940?
C'est ça, j'ai fait des études de lettres donc à l'université de Franche-Comté à Besançon. Et puis plus j'avançais dans mes études, plus j'avais une idée un peu plus générale de un peu le panorama de la littérature française et je m'apercevais que j'aimais bien lire quand même quand il y avait des histoires. J'aimais bien quand j'avais un côté où j'ai toujours un côté enfantin, j'aimais bien me faire raconter l'histoire, lire Picsou Magazine et tout ça, je me suis mis le roman français assez psychologique de façon générale. J'ai rien contre ça, mais j'aimais bien quand il y avait de l'aventure, il y avait du suspense, il y avait de l'action. Et quand il s'agit de faire ma thèse de doctorat, un professeur m'avait dit, il y a beaucoup de livres d'aventure au XXe siècle. Il y a eu, on commence à s'intéresser à ça, mais c'est encore un sujet très méconnu et ça pourrait être un sujet de recherche, une zone de recherche. Et je me suis dit, ah oui, ça peut être intéressant, j'ai envie d'aller là-dedans. Et je me suis aperçu en fait que précisément dans les années 1920-1930, il y a eu un recrudescence et un engouement général en France pour le roman d'aventure, à peu près l'apparition de en 15-20 ans de 80 à 100 titres identifiés comme romans d'aventure, se revendiquant souvent d'être des romans d'aventure. Donc c'est ça. Et ça m'a amené finalement à regarder en lisant la presse de l'époque, en allant lire les écrits de l'intelligentsia littéraire de l'époque, des intellectuels de l'époque, etc., de redécouvrir aussi nombre d'auteurs autres aussi que ceux que tu as cités, qui ont été complètement oubliés et qui ont beaucoup écrit dans ces années-là.
Alors, le jeu du rêve et de l'action, c'est un bien étrange titre. C'est que l'arrivée du roman d'aventure littéraire va bousculer, à travers ces enjeux que sont le rêve et l'action, un paysage littéraire qui finalement est plutôt moribond à la veille de la Première Guerre mondiale.
Oui, mais surtout le paysage romanesque, en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que le naturalisme au 19e siècle a achevé l'histoire du roman, c'est-à-dire que le roman devait aller vers le roman français, devait aller vers de plus en plus de réalisme, devenir le miroir d'une société, être capable quasiment de devenir une science qui renverrait à la société française sa propre image, et que le naturalisme l'a a quasiment accompli. Et on s'aperçut aussi également que le roman accomplissant cela est devenu un petit peu, disons quasiment un roman sans action, où les personnages deviennent de plus en plus vraiment de plus en plus cérébral, de plus en plus intérieur, finalement quasiment comme une mer sans vent. Et on pensait que le roman était fini. On pensait que voilà, c'était le roman avait terminé ce qu'il avait à faire en tant que genre et qu'il était enterré. C'est des choses qu'on peut lire dans les années 1890. Il y a eu des enquêtes menées par des revues littéraires, et ils interviewent beaucoup de gens d'époque, on peut voir, Mallarmé, Zola, Verlaine, être interrogé, et dire, ouais, le roman, c'est fini. Et petit à petit, en fait, c'est venu par les symbolistes, principalement, la scène largement symboliste dans les années 1890, qui tournait autour d'une revue, entre autres, qui s'appelait la Revue Blanche, et qui s'intéressait pas mal à la littérature anglo-saxonne, pas mal à la littérature étrangère, entre autres anglo-saxonne, et entre autres à des auteurs comme Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad, et puis H.G. Wells. Et il disait, c'est marrant, les Anglais font des romans où il y a de l'action, font des romans qui disent quelque chose de l'humain autrement que seulement par le psychologique. Ils arrivent à faire rêver, à esquisser des... Est-ce qu'il sait des scènes et le lecteur les remplit par son imaginaire, genre Rudyard Kipling va évoquer la jungle et on va s'y plonger. Et ça plaisait beaucoup aux symbolistes, parce que les symbolistes aimaient beaucoup l'idée de pouvoir dire un mot et qu'ensuite ce mot-là allait dans la tête du lecteur, la lectrice, créer un monde et une image. Et ils se sont intéressés beaucoup aux romans d'aventure, donc de plus en plus à ces romans qu'ils ont qualifiés de romans d'aventure, petit à petit. Et ils ont essayé d'en faire. Gilles a essayé, il a fait les caves du Vatican. Ils ont essayé de traduire Conrad. Et puis bon, la Première Guerre a éclaté, ça a mis un peu tout en pause. Et en 1917, il y a un auteur qui s'appelle Pierre Benoît qui publie un roman d'aventure qui s'appelle Königsmark. Il se passe bon, en Europe, dans, je pense en Allemagne, en Autriche, je sais plus, qui a un franc succès et qui en publie tout de suite un deuxième qui s'appelle l'Atlantide, qui se passe dans les déserts algériens avec une reine mangeuse d'hommes qui vit au fond du désert algérien. Et là, ça devient une explosion de romans d'aventure. Tout le monde publie son roman d'aventure et tout le monde veut imiter les auteurs anglais. Et tout le monde se dit, on va pouvoir faire le roman d'aventure anglais à la française. Et ça repart finalement, en partie. Bon, entre-temps, il y avait bien sûr eu Proust et autres qui avaient été partis, qui avaient emmené le roman dans une toute autre direction, hein, beaucoup plus intellectuelle, c'était beaucoup plus littéraire d'une certaine façon, qui avaient redémarré le roman autrement. Mais il y a vraiment eu un autre redémarrage qui était celui d'aventure qu'on a un peu oublié dans l'histoire littéraire, mais qui était cette idée-là. On va re-raconter des histoires pour parler de l'humain au lieu d'essayer de montrer cette espèce de miroir réaliste, psychologique. Mmh. Et on peut dire quelque chose sur l'humain, voilà, comme ça.
Mais si je devais, pour préciser un petit peu les choses, si je te demandais de faire une définition de ce qu'est précisément le roman d'aventure littéraire. En fait, qu'est-ce qui sépare Alexandre Dumas, Balzac, que tu citais tout à l'heure, ou d'autres, d'un Kipling, d'un Stevenson, puis plus tard, finalement, d'un Sandrard, d'un Kessel, d'un Malraux, pour ne citer que cela. Qu'est-ce qui différencie ce que l'on nomme, finalement, la littérature de masse, ou dite populaire, du roman d'aventure littéraire?
Ben, disons que Balzac ou Dumas, on peut les mettre quand même dans littéraire. En fait, ce qui sépare le populaire du littéraire, dans c'est des outils, c'est pas des jugements de valeur, hein, c'est des classifications. C'est que le roman populaire, à l'époque, il était beaucoup plus destiné à l'enfance, mais il y en avait quand même pour l'adulte au 19e siècle. C'était un roman qui avait pour but principalement de vanter la colonisation aux enfants. Et il était surtout sériel, c'est-à-dire qu'il était sur le mode de la série, comme on a des séries actuelles, c'est-à-dire on a une série d'épisodes avec le même héros, Alan Quaterman et autres, etc., et Rocambole, etc. Et donc chaque livre finalement doit un petit peu amener comme un James Bond la même recette, le même triomphe, le même scénario, la même structure, etc. Avec toujours un héros qui va gagner sur l'adversité et propager le triomphe blanc colonisateur sur le monde des ténèbres décolonisés. Alors que le roman littéraire, lui, va être un roman unique, il s'inscrira pas dans une série, et va avoir une revendication beaucoup plus, on va dire, d'avoir à la fois d'exploration, de qu'est-ce que l'humanité, une investigation, voilà, un petit peu philosophique ou métaphysique, etc. Et souvent va mettre le héros en proie à l'échec, en fait. Ça ne sera pas c'est un truc qu'on observe, c'est que c'est pas une réussite. Souvent, le héros de ces romans d'aventure, et bien si les auteurs veulent faire quelque chose d'un petit peu honnête avec leur vision de l'humanité, en général, c'est partir en aventure, c'est très compliqué, et on se retrouve avec des héros qui partent en rêvant précisément qu'ils vont vivre une aventure populaire. C'est souvent ça le héros des années 20-30. C'est un jeune homme qui a lu des romans d'aventure populaire, qui part en se disant « ça va marcher, je vais revenir triomphant », et s'aperçoit que sur place, en fait, ça marche pas du tout comme ça, et il est confronté à la peur, à la violence, et parfois même à la mort. Donc c'est cette espèce de réactualisation inquiète. C'est souvent un roman inquiet, un roman d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale, avec cette question où en est arrivée l'humanité après 4 ans de tranchées, de buts, où est l'héroïsme quand on fait face à des obus, où est l'héroïsme quand on a tellement d'armes et de moyens technologiques. Et donc c'est un roman inquiet qui va remettre en cause ce triomphe initial.
Alors évidemment, on l'a compris, tu le citais tout à l'heure, tu en as cité quelques-uns, la première source d'influence est anglaise. Quel impact a la découverte justement de la lecture de Robert Louis Stevenson, l'auteur écossais de L'île au trésor ou L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde? Quel est cet impact que tu évoques à travers justement, enfin sur l'intelligence littéraire française, puisque tu évoques beaucoup la NRF, qui est la nouvelle revue française, qui finalement a une grande influence, une influence capitale sur la vie des idées à l'époque?
Oui, ben c'est ça. Alors Stevenson, il est découvert par un auteur français bilingue, complètement bilingue, qui parle anglais français, qui s'appelle Marcel Schwab, un auteur très prolifique, un peu oublié maintenant, mais très agissant dans les cercles des années 1885-1905. Et lui, il lit un jour ce livre au trésor et il s'est dit, voilà, là, il y a vraiment quelque chose, cet auteur-là est génial, il écrit très peu, il met très... en quelques traits, il dessine un personnage. J'ai vraiment l'impression que je me projette dans mes peurs d'enfant, dans mes attentes profondes, qui l'ouvre une porte dans ma psychologie intérieure en peignant quelques traits de pirate. Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc Marcel Schaub se dit, il faut absolument que voilà, mon travail sera de faire connaître Louis Stevenson, Robert Louis Stevenson, au public français. Donc il traduit, il écrit, il entreprend une correspondance avec Stevenson, il parle beaucoup autour de lui de Robert Louis Stevenson, et il se trouve que Marcel Schaub est très voilà, introduit au cercle littéraire de jeunes gens comme André Gide, par exemple, qui tourne autour d'une revue qui s'appelle La Revue Blanche, et qui, quand cette revue blanche va finir, eh ben, elle va devenir la même équipe de rédaction, la même rédaction, en gros, va devenir la nouvelle revue française, donc autour d'André Gide, Jacques Rivière, enfin, des noms importants de l'époque. Et c'est vraiment cette revue-là, là, bon, la seule bévue qu'ils ont commise, c'est qu'ils n'ont pas publié le premier livre de Proust, ils n'ont pas trouvé, voilà, là, ils n'y ont pas cru au début, mais à part ça, ils ont vraiment, ensuite, ils ont repris le reste de Proust, mais à part ça, c'est vraiment cette revue-là qui va être tout le temps sur l'avant-garde littéraire, qui va être sur l'avant-garde artistique aussi, qui va être connectée sur tout ce qui se passe dans les années 10, 20, 30, qui va traduire les auteurs étrangers d'avant-garde, qui va, etc. Et donc, il va vraiment être une référence à la fois française et mondiale de l'actualité littéraire. Et cette revue-là, eh bien, elle est menée par des gens, bon, d'une quarantaine, cinquantaine d'années, mais qui, dans les années 1880-90, ont découvert Stevenson par Marcel Schaub, et ça les a amenés à Conrad et à G. Wells, hein, l'auteur de La Guerre des Mondes.
Mmh. Bah justement, Conrad, parlons-en, parce que vous êtes un admirateur des écrits de cet écrivain. On l'a bien vu dans Ténèbres, une influence majeure. On parle d'aventure, parlons du héros, parlons de l'aventurier. À quoi ressemble justement, quelle grande différence amène justement le héros conradien, si on peut prendre que celui-là en exergue, ce fameux héros, ce fameux Kurt ou Lord Jim. Le Kurt, c'est ce fameux personnage joué par Marlon Brando dans Apocalypse Now. Qu'est-ce que ça amène de plus justement par rapport, je dirais, au roman réaliste?
C'est ça. C'est que ce qu'admire beaucoup, Alain, c'est les auteurs français à l'époque. Par exemple, c'est un personnage qui les marque. Hein, ce personnage de Lord Jim, qui est un aventurier, qui est un garçon qui a grandi en Angleterre, qui a lu des romans d'aventure assez traditionnels, et qui se dit « je vais devenir marin ». Et à un moment, il est sur un bateau, et le bateau est à deux doigts de couler, avec tout un équipage de gens, enfin de passagers, qui dorment, mais ils se disent le bateau est tellement proche de couler, l'équipage qui est réveillé, ils sont 3-4, le bateau est tellement proche de couler qu'on n'a pas le temps de réveiller l'équipage. Si on réveille l'équipage, les passagers, ils vont s'agiter, le bateau va couler, on meurt tous. Tandis que si on part les quatre, au moins on sauvera nos peaux, parce que genre il y a une paroi du bateau qui est prête de céder, quelque chose comme ça. Et là, Lord Jim, il s'appelle Jim, hein, se dit, ah mon Dieu, oui, faisons ça. Et sauf que le lendemain, ils sont sur leur bateau de sauvetage, ils sont récupérés par un bateau, on leur demande qu'est-ce que vous faites là, ils disent bon, on a quitté le bateau, notre bateau qui coulait, et on dit ben votre bateau il a pas coulé, on l'a trouvé sans vous qui flottait. Et là ils se sont aperçus qu'ils avaient pris peur et que le bateau allait pas couler, qu'ils ont vraiment eu peur. Et là Lord Jim, il s'aperçoit que il s'est complètement déçu, il pensait être un aventurier, et à un moment il a fait l'expérience de la peur. Et c'est ça le jeu du rêve et de l'action, c'est à la fois le rêve d'être aventurier et le fait que quand on fait de l'action, on est confronté à la... Qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien beau de s'imaginer qu'on va affronter les peurs, mais quand on est devant la peur, on a peur. Et ça, c'est une des questions qui à Conrad amène et qui fascine les auteurs français. C'est-à-dire, c'est une désidéalisation de figures littéraires. Et ce qui va parallèlement à un moment où on commence, précisément avec tout ce courant-là nietzschéen qui annonce la mort de Dieu, avec la Première Guerre mondiale qui a un petit peu... il n'y a plus rien d'héroïque à se faire bombarder. Et donc, ça fascine cette idée-là de qu'est-ce que peut faire un humain. C'est-à-dire un humain, à quel point il peut résister à la peur, à quel point il peut résister à la douleur, à quel point il peut se dépasser. Et donc ça rejoint aussi la façon dont ils ont reçu Nietzsche, la France a reçu Nietzsche à l'époque, il n'a pas forcément reçu d'une façon entière et complexe, parce que c'est un philosophe très complexe et que tout le monde n'est pas germanophone à l'époque. Enfin bref, mais cette question-là de comment l'homme peut se dépasser, c'est ça qui l'intéresse, et il trouve que Conrad donne une réponse assez complexe sur et très réaliste avec et à cela il ajoute, il a un style voilà très hypnotisant qui plaît beaucoup à ces gens qui sont d'anciens symbolistes principalement. Donc c'est tout ça qui les intéresse. Voilà, c'est vraiment une question, le jeu du rêve et de l'action, c'est à quel point le rêve est dangereux ou à quel point le rêve peut s'effondrer quand on commence à le mettre en action.
Alors, s'il y a un aspect fascinant dans votre réflexion d'écrivain dans cet essai, c'est la place de l'érotisme, la transgression des valeurs. Nous le retrouvons effectivement également dans le formidable Ténèbres, paru chez La Peuplade. Vous citez Georges Bataille dans L'érotisme, paru en 1957. Je cite « De l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. » Alors, quel est l'enjeu, la place et la définition que vous donneriez à l'érotisme dans le roman d'aventure ? Car l'érotisme est une réponse, finalement, de l'aventure moderne à un monde réaliste, illusoire et dépassé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la désidéalisation du monde, la dédivinisation, ça laisse qu'un corps. Voilà, ça laisse un corps de 60, 70, 80 kilos de, ou plus ou moins de chair et d'eau. Et c'est ça, ce dont un peu la réflexion du roman d'aventure, que tel que j'ai pu l'observer de façon transversale. À travers, là j'étudie une quinzaine de romans, mais j'en ai étudié, disons peut-être 60, 50. Et on retrouve toujours cette même idée, c'est puisqu'on n'est plus que de la viande finalement, comment faire pour essayer d'en faire quelque chose, c'est-à-dire pour laquelle se sentir vivant, se dépasser, etc. Et ce que Georges Bataille appelle l'érotisme, c'est cette façon-là qu'on va essayer de pousser cet être de chair qu'on est à ses limites, au plus proche de ses limites, voire essayer de l'amener quasiment presque dans la mort, et à ce moment-là se sentir vivant. Et c'est ce que veut. Et à cela, Sartre rajoute, non seulement on va aller au plus proche du danger ou au plus proche de l'idée d'anéantissement, donc on peut retrouver dans la relation sexuelle, mais qu'on peut aussi retrouver dans l'adrénaline extrême d'aller voler des statues khmères en Asie du Sud-Est, ce qui par exemple dans les années 1920 est extrêmement dangereux pour différentes raisons. Et Sartre ajoute, ou s'engager par exemple dans la révolution communiste chinoise, comme certains héros de Malraux, Sartre ajoute, donc on fait ça aussi et on veut qu'on nous regarde faire. Et donc le héros, l'aventurier, l'érotisme de l'aventurier, c'est qu'il va toujours par deux. Il y a un héros aventurier et un peu son bras droit, son espèce d'adjoint qui est là juste pour le regarder se mettre en danger. Et donc il y a tout un jeu de regard, et il y a à la fois un jeu d'érotisme et à la fois un jeu de scopisme, de regard. Un des aventuriers va vouloir approuver la vie jusque dans la mort, c'est-à-dire essayer d'aller au plus proche de la mort, voire limite se faire tuer, mais à ce moment-là, il espère qu'il y aura ce moment sublime où il sera en plein feu de l'action, quasiment à moitié mort, quasiment défiant toute douleur et poussant son corps au-delà de ses limites, et que là, quelqu'un pourra le regarder, qui aura été son acolyte, son bras droit, et qui lui pourra revenir raconter qu'il a vu quelqu'un mourir de façon sublime, et que donc, même s'il n'y a pas de Dieu, il y a quand même une sublimation possible. C'est un peu ça. Donc c'est pour ça que souvent le roman d'aventure de cette époque-là est le roman de quelqu'un qui raconte qu'il a vu quelqu'un, qu'il a vu un aventurier. Mais le problème, c'est que ça, c'est théorique, et c'est le grand pessimisme de ce roman d'aventure, et aussi sa grande complexité, c'est que ça marche pas. C'est parce que celui qui raconte, déjà celui qui va au-delà de son corps, souvent il va avoir peur, il va souffrir, il va crier, il va tout simplement se planter. Et celui qui revient lui peut raconter n'importe quoi, peut raconter la mauvaise chose, peut lui aussi vouloir aller mourir, etc. Donc on a souvent le récit de quelqu'un qui revient, qui dit « Moi, j'ai voulu mourir en aventure, mais j'ai pas été capable, donc je suis un gros nul. » Et donc il raconte sa vie. ou un autre qui dit « Moi, j'ai vu quelqu'un mourir en aventure, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, je vous raconte sa vie, mais à la fin du roman, vous savez quoi, je vais retourner mourir comme lui. » Et on s'aperçoit qu'en fait, il est complètement fanatisé et qu'il va pas très bien dans sa peau non plus. Donc souvent, c'est... Il y a toujours... c'est une époque pessimiste, quoi. C'est une époque qui se dit... Bon, et l'ouverture qui causera la fin du roman d'aventure, cette idée de l'aventure, c'est finalement l'existentialisme qui amènera cette idée-là que ça sert à rien de se faire voir pour être quelque chose. C'est un peu de la mauvaise foi, dira Sartre. On se fait croire qu'on est un aventurier, on se fait croire qu'on est un être sublimé, on est dans la sublimation érotique, on est ceci, on est cela. Non, on est juste ici et maintenant, et si on a quelque chose à faire, on peut faire ce qu'on veut. Mm-hmm. Si on peut aider quelqu'un, si on s'engage dans la révolution, ben, ce sera pour aider les révolutionnaires. On peut aussi s'engager contre la révolution, ce sera contre la révolution. On peut aussi décider d'avoir une femme et des enfants et de se ranger. Ça sera ainsi. Ce qu'on est, c'est ici et maintenant. Et une fois que cette pensée existentialiste a ainsi apaisé d'une certaine façon toutes ces angoisses comment être un héros à cette époque si violente et si technologiquement violente.
Mmh. Alors, le roman d'aventure littéraire est une réaction, une vision du monde réductrice, on l'aura compris, limitée, ordonnée. Les romans de Malraux et de Saint-Exupéry témoignent d'un mal-être terrible. C'est bien le refus d'un monde en crise que vous exploitez aussi d'ailleurs dans Ténèbres. Ténèbres qui est aussi une critique du désastre de l'acte mortifère colonial. L'aventurier est en crise, comme la société qui le porte, quasiment jusqu'au suicide, comme les personnages, finalement le personnage dont vous parliez tout à l'heure, Caillot de la condition humaine, mais je dirais même quasiment comme votre personnage de Six Xiao dans Ténèbres.
Oui, c'est quelque chose qui est très touchant, ces personnages. Donc c'est des romans qui, idéologiquement, c'est vraiment des années 20-30, ils sont dans une époque encore coloniale, ils sont dans une époque raciste, dans une époque très misogyne. Donc, mais il y a quelque chose d'également touchant de ces personnages prisonniers de cette époque-là, prisonniers de cette grande violence, et qui préfèrent trouver une voie, une autre voie que celle soit de l'embourgeoisement, soit de qui est surtout la voie de l'embourgeoisement. La voie qu'on propose, c'est surtout marie-toi et fais de l'argent. Et ces gens-là refusent parce qu'ils sentent, voilà, quelque chose ne va pas. Ils n'arrivent pas à mettre le doigt là-dessus, et ça les pousse, voilà, à aller chercher la mort ailleurs, à aller sortir et à vouloir quasiment mourir comme des martyrs un peu de leur société. Donc quelque chose de touchant, parce que il y a beaucoup de ces personnages-là que voilà, on se dit bon, ben un peu de communication non violente, un peu de choses comme ça, et ça devrait aller mieux. Et on sent que c'est une époque où il y a cette espèce de masculinité qui, alors on en a pas fini avec ça, mais qui est complètement prisonnière de tout cette idéologie à la fois bourgeoise, patriarcale, capitaliste, etc., qui est incapable de mettre les mots sur son malaise et qui finalement va aller pousser la violence contre lui-même ou malheureusement contre des personnes colonisées ailleurs. Et il y a une grande tristesse qui émane, voilà, de ces mouvements-là, et à la fois aussi en négatif une grande critique qui n'était pas forcément voulue par les auteurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces auteurs-là sont parfois des auteurs très à droite, des auteurs qui sont très amers, très très amers. Et donc c'est pas vraiment des romans qui veulent critiquer directement la colonisation ou directement le patriarcat, mais on sent en les lisant quasiment 100 ans plus tard qu'il y a un malaise immense dans cette société-là, à cette époque-là. Et ce malaise immense, on le sait maintenant, nous, qui va se traduire par la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de romans, on sent le fascisme qui monte, par exemple. Mmh. On sent ces choses-là. Et ce qui m'intéresse dans ces romans, c'est aussi l'idée que ça peut... voilà, la lecture d'aujourd'hui.
Justement, que reste-t-il, à ton avis, de l'héritage du roman d'aventure littéraire aujourd'hui?
Alors, ce qui reste, c'est voilà, principalement des grands noms, comme principalement celui de Malraux, les premiers romans de Malraux, etc. Et je pense qu'on peut le ressusciter puisqu'il a pu exprimer une critique et un malaise à cette époque-là. Je pense qu'on peut aussi le ressusciter pour à la fois rejouer un petit peu ce jeu de la critique, c'est-à-dire que pour faire le roman d'aventure va jouer beaucoup avec les fantasmes d'enfance, c'est-à-dire le rêve, l'idée de surpuissance, l'érotisme, etc. Et pourtant, en le suivant, on va mettre le doigt sur des choses de nos sociétés qui sont à la fois qui connectent le très intime au social. C'est ça qui est intéressant. C'est un roman qui a quasiment été enterré et qui, bon, j'espère, ou peu importe, les gens écriront ce qu'ils voudront, mais en tout cas, il y aura un grand intérêt à ce qu'il renaisse. Et également, c'est un roman qui raconte des histoires. Et ça, c'est très intéressant de se faire, je trouve, raconter une histoire. C'est pas forcément faux d'avoir de la fiction, d'avoir une histoire qui se passerait dans un autre temps, dans un autre pays. Ça veut dire des choses très profondes sur ce qu'on peut ressentir. Ça peut dire, on peut dire énormément de choses, comme les mythes ont exprimé énormément de choses, comme les romans de chevalerie peuvent dire énormément de choses sur l'amour, sur le désir, sur les rapports hiérarchiques en société. Donc, il ne reste plus grand-chose, je dirais, à l'heure actuelle. C'est encore, voilà, c'est les domaines d'études de ces romans-là sont voilà, c'est réservé en ce moment, c'est plutôt connu des universitaires, mais je pense qu'il y a certaines maisons qui republient par exemple, L'Arbre Vengeur republie des romans d'aventure, comme celui de Roger Laforêt, qui s'appelle Les Figurants de la Mort, ou des choses comme ça. Il y a de la republication, je connais, des éditeurs en France qui ont un intérêt particulier pour certains de ces auteurs, etc. Et cette envie de ressortir, voilà, l'aventure. Et je pense que c'est surtout une grille de compréhension du monde qui est peut-être bonne de ressortir à l'heure actuelle où on peut se le dire, hein, ça va pas très bien non plus.
Voilà, je vous encourage à vous immerger dans cette étude passionnante et éclairante sur une époque trouble où se joue l'avenir et l'évolution du roman d'aventure moderne en France. C'est aussi le moyen de vous donner envie, chers lectorat et auditeurs et auditrices, de relire la dizaine de romans décortiqués de mains expertes par l'auteur. Vous y retrouverez Pierre-Marc Orlan, Pierre Benoît, Joseph Kessel, Blaise Sandrard, Antoine de Saint-Exupéry et bien d'autres qui emboîtent les pas de Joseph Conrad, un auteur qui hante les pages également de Ténèbres, le fameux roman chaudement recommandé par toute la critique ici, par l'auteur de cet essai à découvrir, Le jeu du rêve et de l'action, étude du roman d'aventure littéraire de l'entre-deux-guerres français par Paul Kozak, paru en 2022 aux éditions Nota Bene. Merci Paul d'être passé à Mission Encre Noire.
Merci Eric.
Tant que la confiserie était ouverte, elle arriva à occuper son esprit. Mais à la fermeture, lorsqu'elle éteignit les lumières derrière la caisse, elle se dit en elle-même que rien ne la retenait. Elle combattit son mauvais pressentiment en se promettant qu'elle ne toucherait à rien, qu'elle ne jetterait qu'un bref coup d'œil. Personne ne le saurait, pensa-t-elle. Finalement, sa faiblesse l'emporta. Jenny se plaça près de la porte et attendit qu'il n'y ait plus de passants devant la boutique avant de pénétrer dans l'hôtel. Lorsqu'il n'y eut plus personne en vue, elle ouvrit la porte et s'engagea dans le corridor sans lumière. Elle monta l'escalier dans l'obscurité en tenant bien la rampe. Sa respiration était haletante. Arrivée au premier étage, elle buta contre une porte barrée. Déçue, elle poursuivit son chemin à tâtons. Qui sait ? Elle aurait peut-être plus de chance à l'étage suivant. Elle agrippa la poignée de porte du deuxième étage et l'ouvrit avec méfiance. Le grincement de ses gonds résonna à travers le long couloir qui s'allongeait devant elle. Les lampes murales du corridor étaient toutes allumées, mais l'éclairage semblait tout de même blafard, comme voilé par une brume épaisse. Jenny accusa sa fatigue. Ceci est un extrait des Chroniques de l'Abîme et autres récits des profondeurs par Simon Predge, Charles Beauchesne et Pierre Bunk, paru en 2022 aux éditions de l'Homme. Âme sensible, s'abstenir. Les villes fantômes ne cesseront jamais de fasciner. Les meurtres sordides non plus. Quant au phare du bout du monde perdu sur une archipel de cette île isolée, aux naufrages inexplicables et aux voix d'outre-tombe obsédantes, ils peuplent l'ordinaire des récits de trois passionnés d'histoires d'horreur, d'épouvantes et autres bizarreries qui peuplent notre imaginaire. Cinq récits terrifiants vous attendent patiemment derrière le lustre d'une couverture
forcément menaçante, signé Pierre Briot, alias Bunk. 5 histoires illustrées et accompagnées par les personnages dessinés des auteurs eux-mêmes, mises en scène pour vous mener au bord de l'abîme. Ajoutez à cela des encadrés fort passionnants qui piochent allègrement dans la sagesse populaire, les faits historiques, les phénomènes étranges ou occultes pour étayer la flamme de votre panique. Il y aurait une rumeur qui dit que tout commence à un carrefour en pleine cambrousse, même s'il n'est pas minuit. C'est à Mission Encre Noire que ça se passe. Je reçois Charles Beauchesne et Simon Predge. Bonsoir Charles, bonsoir Simon.
Bonsoir.
Et bonjour.
Charles, tu es humoriste qui s'illustre comme maître de l'étrange sur plusieurs plateforme, c'est écrit dans ta bio. Tu es le créateur du balado Les pires moments de l'histoire et de plusieurs séries web. Simon, tu es le réalisateur d'Ars Moriendi, un balado qui rappelle les meurtres les plus insolites de notre histoire et l'animateur de l'after show de Predge sur la chaîne Frisson TV. Tu as publié La mort en héritage aux éditions de l'Homme en 2020. Et n'oublions pas que tu as initié ton aventure sonore puis visuel, ici à choc.ca avec Les Oubliettes aux côtés d'Olivier Bigonnès. Pierre Bunk, on pourra parler un petit peu de lui, c'est un illustrateur, auteur de BD dans des fanzines tels que Motosex, Turquet Comics, L'Underground, Speedball et Arg. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les trois et d'où est partie l'idée de mêler vos talents sur ce livre?
Au 13e siècle, non, non. j'avais invité Charles. J'ai su par des amis communs que Charles était un auditeur d'Ars Moriendi sur la route. Et j'ai eu envie de collaborer avec lui. Je l'ai contacté puis je l'ai invité à participer à Ars Moriendi pour une collaboration un peu spéciale, un épisode spécial pour le Poisson d'Avril où on se lâchait lousse, où on partait d'une histoire vraie, mais on l'extrapolait et tout ça. Charles s'est ajouté avec ses détails intéressants.
De faire un crossover entre les deux podcasts, en fait.
On avait voilà.
Chacun de notre émission, on a décidé de mélanger les deux affaires, de faire un projet commun. Et ça donnait un bien joli spécial.
Éventuellement, ben, Pierre Bunk, qui a entendu l'épisode, nous a contactés. Il est intéressé, en fait, à l'adapter en bande dessinée. Forcément, ça nous tentait. L'idée a grossi, ça a évolué, puis ça s'est transformé finalement en recueil d'histoires illustrées, ce qui a donné les chroniques de l'abîme, finalement.
Alors, ce livre est dédicacé à Edgar Allan Poe et Lovecraft. Ça vous a pris quand ce goût pour l'étrange, le bizarre, le kinky, l'horreur? Est-ce que vos souvenirs de lecture sont faits plutôt de cinéma, de contes, de récits racontés?
Moi, je pense qu'on est. Je pense que Fred et moi, on est à la base des enfants des années 90, des bébés des années 80. On a vécu les années de la cluche, les années des bébites, les années des monstres. Fait que j'ai comme l'impression que ça imprègne un peu notre enfance. Puis on est juste deux individus avec de très fastidieuses curiosités morbides. Les années croches étaient déjà là.
Alors, quand il s'agit d'horreur, évidemment, il y a une référence qui doit vous parler, c'est celle de Stephen King, qui écrivait « Nous nous réfugions dans des terreurs pour de faux afin d'éviter que les vrais ne nous terrassent, ne nous gèlent sur place et ne nous empêchent de mener notre vie quotidienne ». C'est une citation que j'ai tirée à
Nana. Il avait bien raison de dire.
J'ai tiré ça d'Anatomie de l'horreur. Alors, je rajouterai à cela une autre définition, parce que ça m'amusait de les mettre en rapport. C'est une de Svetlana Todorov qui parle du fantastique, lui dit que c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Alors, est-ce que vous partagez d'ailleurs ce point de vue? Est-ce que ces chroniques permettent-elles de se rassurer ou bien d'ouvrir vers le jouissif, le frisson, l'interdit?
Je sais pas si c'est une manière de se rassurer tant que ça. Effectivement, c'est sûr que par la force des choses, c'est un peu, comme Charles dit, un mélange des deux. Mais au final, moi, j'ai toujours trouvé que la réalité dépassait la fiction. Puis là, c'est plus comme un jeu. C'est de s'amuser à voir jusqu'où ça peut aller, puis de laisser aller notre imagination en jouant un peu justement sur la ligne, là.
elle permet toutes ces choses-là en même temps. Je pense que les humains, depuis qu'on est des hommes préhistoriques et qu'on se rassemble autour du feu pour se parler de ce qui se passe, de ce qui est inexplicable, des forces de la nature sauvage qui errent dans les ténèbres, je pense que ça a toujours fait partie de nous. Les peurs ont évolué avec les siècles, mais il y a quelque chose de rassurant. Il y a quelque chose de rassurant à se terrifier entre nous avec des réponses inventées ou pas face au phénomène inexplicable. Je pense que c'est comme ça depuis toujours.
Mm-hmm. Alors, vos trois caricatures se réunissent dans un chalet au milieu du bois, en plein hiver, au bord d'un précipice, où ce qu'on devine être un précipice, vous devisez sur l'abîme, sur les profondeurs. Alors évidemment, vu que ça fait partie du titre, qu'est-ce que l'abîme et faut-il y descendre ou seulement le regarder du haut comme ça?
Ah, ça, c'est une grande question, ça. Je ne saurais même pas par où commencer.
Qu'est-ce que l'abîme? L'abîme, c'est mon... Dans le cas du livre, nous autres, on y est allés. C'est une métaphore à peine voilée. Là. L'abîme, c'est les ténèbres de l'inexplicable. C'est l'enfer sans nommer. C'est les ténèbres. Exact. C'est les ténèbres à l'intérieur de l'humain aussi. C'est les ténèbres autour de nous qu'on ne peut pas expliquer. Les Anglais disent what goes bump in the night, ce qui fait du bruit dans la nuit. C'est tous ces phénomènes-là, en fait, autant les ténèbres de l'âme humaine que les démons imaginaires qu'on s'est inventés à travers les siècles pour venir expliquer le fait qu'il y a du tonnerre dans le ciel ou des créatures qu'on comprend pas. C'est un mélange de toutes ces choses.
Alors, la
représentation du mal en nous, je pense. Je pense que Charles le dit bien, là. C'est que ça représente pas juste les peurs extérieures, c'est aussi le mal qui est en nous. C'est une représentation de tout ça, de la noirceur en général, je pense.
Alors, justement, Simon, la mine, le phare, la bête immonde, la voie d'outre-tombe, le labyrinthe impossible. On retrouve aussi le tueur en série ou l'équipe d'expédition qui disparaît. Bien entendu, il y a aussi des aliens, une alien dévoreuse d'âmes. On retrouve bon nombre de classiques de l'horreur, je dirais même du fantastique, voire de la terreur dans ce livre. Comment avez-vous choisi les sujets? Y a-t-il des incontournables quand on veut faire peur?
Il y a tout à fait des incontournables. Je pense que ça, c'est nos sensibilités d'amateurs de frissons à Simon et moi. Je pense qu'on s'est juste assis et on s'est demandé, d'accord, c'est quoi quels sont les archétypes de l'horreur qui sont les plus populaires, qui sont les plus populaires pour nous? Comment est-ce qu'on peut prendre ces idées-là? Comment, je sais pas, le loup-garou, la momie, la sorcellerie, les extraterrestres, etc., etc. Puis je pense que le brainstorm derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut prendre ces divers éléments-là et les adapter à la narrative commune qu'on est en train d'essayer de tisser entre les histoires. C'est prendre du cliché et lui injecter du renouveau pour faire une horreur tout à fait nouvelle et différente, mais quand même un terrain connu pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui aiment ça, puis pour ceux qui sont, mon Dieu, foudroyés de la même curiosité morbide que nous. Et on a des talents aussi, on a des connaissances qui viennent se fider les unes aux autres. Mais moi, Simon, c'est ça, pour moi, le plaisir de travailler avec toi, c'est que t'as toujours un exemple d'un phénomène fantastique qui a rapport avec ce qu'on aimerait raconter en banque et qu'on pourrait utiliser. Fait que ça devient facile à partir de ce moment-là de prendre une de ces idées-là puis de colmater les trous avec des bébés. Et je pense que c'est ça essentiellement le travail qu'on a fait sur le livre, c'est colmater les vides avec des créatures.
Alors justement, Charles, j'en appelle au comique, à l'humoriste. Est-ce si éloigné que ça du rire de provoquer justement ce réflexe à une émotion qui est la peur? On dit d'ailleurs être mort de rire. Avez-vous fait des rapprochements justement entre, je dirais, vos textes plus humoristiques et, je dirais, sur une formule assez commune pour faire peur?
Ce qui est que rire et avoir peur, ce sont deux émotions qui sont complètement à l'opposé d'un même spectre. Mais elles se situent sur le même spectre, celui de la surprise, celui de la réaction, émotive, instinctive face à la surprise. C'est, je veux dire, des effets d'horreur, des effets d'humour, pour moi, ça part de la même place. Ça part d'une bonne description de pourquoi l'auteur ressent ces choses-là. Moi, j'écris pas des affaires. Quand j'écris de l'humour sur des affaires qui font rire. Quand j'écris de l'horreur sur des affaires qui me font fondamentalement peur. Et je pense que le lien entre tout ça, c'est juste à quel point t'es capable de bien expliquer pourquoi A, quelque chose est drôle, ou pourquoi B, quelque chose est terrifiant.
Je pense que c'est la mécanique d'une histoire, la manière de raconter une histoire. J'ai l'impression que pour mener l'humour comme pour mener l'horreur, le chemin est le même, la mécanique, la technique est la même. La manière de raconter une histoire, tout est là. Tu peux raconter l'histoire la plus ennuyante du monde. Si c'est fait par un bon raconteur, ça va être quand même intéressant. Il va quand même te donner des émotions. Je pense que c'est toute une question de mécanique. Après ça, ben c'est ça. Je pense qu'il faut se faire confiance mutuellement. Charles, c'est à mon tour de t'en lancer une. Moi, le plaisir que j'ai eu de travailler avec toi, c'est qu'à chaque fois qu'on bloque, je t'ai envoyé mon blocage. Hey, j'ai une petite barrière, j'ai une petite clôture aussi. Là, tu ferais quoi, toi? Et ta première réponse, c'est celle qui a fini dans le livre. Et il est bon pour nous faire débloquer, Charles.
Ah, ben justement, parlons de blocage, en tout cas d'histoire. Simon, si je prends un des textes que tu as écrit, La Mine, qui joue avec le mythe de la ville fantôme, la ville de Gagnon, située à 300 km de Baie-Comeau sur la côte nord au Québec. Ça se situe en 1984. Il y a un étrange bourdonnement qui se fait entendre. Alors, que se passe-t-il? Et surtout, comment as-tu sélectionné les encarts qui vont jalonner ton texte principal?
Tu parles de détails intéressants. Ça, en fait, c'est Charles qui a fait la sélection. Ça, c'est justement l'histoire de la mine. C'est justement l'histoire qu'on avait écrite pour le podcast en collaboration. Donc, c'est pour ça que c'est la première histoire aussi dans le livre. Tout découle de ce détail-là, cette histoire-là. Mais c'est Charles qui a décidé quelle anecdote s'accorderait bien justement à l'histoire de la mine. Il pourra mieux te répondre.
Ben oui, parce qu'à la base, c'était le podcast crossover qui a donné naissance au projet du livre. C'était l'union de nos deux œuvres. Simon est plus dans le podcast dans le podcast True Crime, plus dans le plus dans l'énergie du raconteur. Je me suis dit d'accord, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Moi j'ai une dynamique que j'utilise dans le podcast, qui est celle des détails intéressants, qui est celle de j'interromps le récit pour faire « Ah oui, by the way, chronique, détail intéressant. » Puis là, je venais à parler de quelque chose qui a plus longuement de quelque chose qu'on vient de nommer dans l'histoire. C'est qu'on a comme gardé cette espèce de mécanique-là dans nos histoires d'horreur où, ponctuellement, je viens élaborer sur des détails sur diverses faits qui ont été mentionnés dans le récit, avec une anecdote qui n'a pas nécessairement rapport avec l'histoire, mais où la source du mal, la source de l'horreur est la même. Et à partir de ce moment-là, le lecteur fait les liens de par lui-même pour comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé, quelle est la vraie origine des phénomènes surnaturels qui sont en train d'avoir lieu dans l'histoire.
Justement, la dernière histoire, comme c'est Charles qui a écrit l'histoire, on s'est inversé les rôles et c'est moi qui ai fait les détails intéressants.
Ben justement, parlons-en des Diablotins du Col. C'est une histoire, c'est les membres d'un groupe Diatlov qui vont découvrir à leurs dépens que le monstre qui habite la banquise est peut-être en eux-mêmes. Vous écrivez « La douleur de l'humanité est une conscience ». Pierre Bunk précise dans une bulle « La vérité est peut-être pire que tout ce que nous avons imaginé ». Mais en fait, la vérité, est-ce que c'est vraiment important ici? Est-ce que l'horreur ne recèle-t-elle pas bien plus de trésors que ce que l'on imagine, justement, comme, je dirais, la magie de l'inconnu, la magie de l'incompréhensible, se laisser perdre dans quelque chose qui est complètement inconnu? Ou bien l'horreur, c'est aussi une histoire d'écrivain? Est-ce que c'est aussi un côté jouissif de faire des petits tours de passe-passe, de jouer avec le vrai, le faux?
Je pense que c'est toutes ces affaires-là. Je pense que la vérité vraie, en fin de compte, on s'en fout. Par contre, laisser le lecteur sous-entendre pour lui-même la vérité, c'est ça l'effet qui est recherché. Je pense que c'est un bon vieux code de film d'horreur, là, de montrer, il faut jamais montrer le monstre. Faut le montrer montrer des morceaux du monstre, et le monstre que le spectateur va imaginer dans sa tête va toujours être beaucoup plus terrifiant que tout ce que tu vas pouvoir lui montrer. Fait que je pense que c'est une question de donner toutes les pièces du puzzle au lecteur pour qu'il puisse imaginer ce qu'est la réalité, ce qu'est la source du mal, la source de l'horreur, sans nécessairement, tout lui expliquer dans les détails. C'est pas nécessaire, ça. Il faut que le lecteur se fasse peur à lui-même.
Ouais, s'agissant de monstres, justement, Simon, si je prends la nouvelle L'Hôtel Difforme, tu t'appuies sur un tueur en série américain, Henry Howard Holmes, qui va te permettre de bâtir ton personnage. Je me suis demandé, qu'est-ce qui t'a motivé le plus pour atteindre, je dirais, le graal de créer cette zone jouissive, hein, de créer du malaise chez ton lectorat? Est-ce que c'est le plaisir d'inventer le personnage du bourreau ou bien celui de la victime, en l'occurrence, je dirais, la Jenny qui est forcément blonde aux yeux bleus?
Ben justement, par rapport à ce que je disais plus tôt, par rapport au blocage, on avait une idée de base pour partir d'H.H. Holmes. Puis ce que je trouvais dommage à mesure que j'avançais, c'est que je m'éloignais pas beaucoup de tout ce qu'on connaît déjà de Holmes. Je trouvais ça difficile parce que le mythe est déjà immense. Et c'est Charles qui a eu l'idée, justement, de traiter l'histoire, mais du point de vue d'une victime. Et ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait autour de Holmes. C'était une idée de génie. Et on est parti de là. C'est là qui est intéressant, justement, de prendre la position un peu du lecteur. Le lecteur se met dans la peau de la victime, puis on découvre à mesure qu'on avance l'horreur dans laquelle elle vient de pénétrer sans trop en donner. Mais au final, je trouve que l'horreur, ça part toujours du malaise. Ça part de l'inconfort. De l'inconfort de pas savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. C'est ça qui est intéressant. À mes yeux, je trouve que c'est ça le défi. C'est ça qui est le fun dans la littérature, c'est de trouver les bons mots pour ne rien dire du tout. Tout dire et ne rien dire, c'est ça le défi.
Mais
c'est ça qui est agréable à faire.
Parce que la nuance, c'est dire en disant le moins possible.
Oui, mais Charles, toi qui fais du stand-up, Charles, toi qui fais du stand-up, qui va sur les scènes ou autre, en tout cas, ça peut se jouer à très peu de choses, finalement, entre une blague réussie et un flop. Est-ce aussi difficile d'être, j'ai envie de dire, crédible quand on raconte des horreurs? Qu'est-ce qui peut vous échapper rapidement et voir que l'histoire ne tient pas? C'est son rapport à la réalité? Un personnage qui est trop caricatural, ça tient à quoi?
Je pense qu'un personnage trop caricatural, ça vient du fait de ne pas avoir bien intériorisé l'histoire et la situation. Je pense que la clé pour créer un personnage d'horreur crédible, c'est de se mettre soi-même dans la peau de ce personnage-là et de se demander quelle réaction nous on aurait personnellement face aux événements qui sont en train de se passer. Et surtout, jouer sur qu'est-ce qui te fait peur à toi en tant qu'auteur. Et par la suite, parler de ces peurs-là à travers le personnage. Mais ça ne peut pas être de la peinture à numéro. Je pense qu'il faut s'investir. Je pense qu'il y a une espèce de travail de caméléon schizophrène dans tout ça. Il faut se mettre
dans la peau du personnage.
Voilà,
Je me souviens en avoir parlé parfois avec Simon ou Oli quand je vous croisais dans les locaux de Choc. Mais en tout cas, je vous repose la question. Pourquoi y a-t-il autant d'attrait aujourd'hui pour le gore, le sang, les tripes? Ce n'est peut-être pas la même chose auparavant, mais pourquoi est-ce aussi prenant? Est-ce que c'est toujours pour effrayer le bourgeois? Est-ce que ça tient encore, cette idée-là?
Ben, ça dépend, là. Moi, j'étudie l'attrait pour les tripes et le gore. Moi, je fais une séparation. Je pense pas qu'il y a un nouvel attrait pour les tripes et le gore. Je pense que, approximativement, là, le public pour ce type d'horreur-là a toujours été le même. Ça bouge pas ben. C'est sûr que ça peut pas faire tout le monde. Mais il en consomme beaucoup. Toutefois, de l'autre côté, l'attrait dont tu parles, je pense qu'il est plus proche du true crime et du documentaire. Je pense qu'il y a la mode récente du true crime, évidemment. Là, tout le monde ne parle que de ça. Il y a des statistiques qui sont sorties d'ailleurs cette semaine et le true crime, après les nouvelles, c'est le sujet le plus populaire aux États-Unis en podcast. Donc, ça en dit long. Mais je pense que l'attrait, c'est comme aller à la ronde au final. Parce que ça nous intéresse. C'est l'horreur qui, cette horreur-là est proche de nous. Personne n'est à l'abri de cette horreur-là réelle, du meurtre. Mais au final, on ne veut pas se mettre en danger, même si ça nous intéresse. L'attrait de le regarder en documentaire, de le lire, de le regarder, même en fiction, c'est que ça nous permet d'être, en quelque sorte, témoin de cette horreur-là tout en restant en sécurité à la maison. Ce que le corps rejette, là, après ça, c'est comment j'avais dit ça? J'avais déjà dit ça dans mon podcast, je pense, j'avais dit, c'est un peu comme si ton cerveau croyait pendant un moment que tu étais en danger, puis comme tu ne l'es pas, le film finit, puis tu étais à la maison, bien tranquille, mais là, c'est comme si ton cerveau dit, ah, je sais pas ce que tu as fait, mais ça devait être la bonne chose, parce que là, je me sens en sécurité. Pour te féliciter, ben, je vais t'envoyer un petit peu d'endorphine. Mais c'est un peu la même chose quand on fait un manège à la ronde. Quand on termine, là, ouf, on se sent bien. On se sent, c'est la même chose pour les gens qui font du jogging. Ils ont fini leur journée, là, pis, ouf, ils ont comme un high, ils ont un kick, là, c'est comme une drogue, mais c'est la même chose dans l'horreur.
Ouais, puis peut-être aussi, ça vous permet de confronter votre lecteur ou lectrice directement avec ses peurs, parce que dans bien des cas, dans vos nouvelles, s'installe un étrange sentiment de solitude. Il y a beau avoir plusieurs personnes au départ, fatalement, il y a un effet d'entonnoir qui renvoie chacune face au dernier personnage encore vivant. On finit toujours par un unique et dernier personnage vivant. C'est comme une angoisse du temps qui passe. Vous nous amenez jusqu'à, finalement, le risque de mort à la fin, ou torture, ou peu importe, selon les histoires. Ça aussi, c'est un ingrédient fondamental dans l'histoire d'horreur, à votre avis, cette espèce d'effet de solitude?
Pas fondamental, c'est archétypal.
Okay. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est une bonne base à l'horreur. C'est toujours ça, le cinéma, là. Si tu regardes le cinéma slasher, il en reste toujours juste une à la fin. Puis c'est ça, la base de l'horreur. C'est de se retrouver tout seul, à pas être mal à pas armé pour s'en sortir. Je pense que c'est ça aussi la base, au final.
Alors, vous qui aimez jouer dans le noir, à douter de votre destin à chaque fois que vous tournez une poignée de porte, 5 récits terrifiants sont pour vous. Les auteurs vous l'annoncent avec une joie aussi effrayante que désarmante. Venez plonger au cœur de l'abîme en leur compagnie. Chronique de l'abîme et autres récits des profondeurs par Simon Predge, Charles Beauchesne et Pierre Bunk, paru en 2022 aux éditions de l'Homme. Merci Simon et Charles d'être passés à Mission Encre Noire. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire ce soir, le tome 35, le chapitre 387. Paul Cossack est venu nous présenter en première partie d'émission Le jeu du rêve et de l'action, étude du roman d'aventure littéraire de l'entre-deux-guerres français, paru en 2022 aux éditions Nota Bene. En seconde partie d'émission, Simon Predge et Charles Beauchesne viennent nous présenter l'ouvrage qu'ils ont confectionné avec l'aide de Pierre Bunk au dessin, Chronique de l'abîme et autres récits des profondeurs, paru en 2022 aux éditions de l'Homme. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là.
Quem diria, hein, Greta Garbo acabou de irajar, hein.
Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
Jorjão! Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso tá bom.
Poderia servir de
isso aí. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
Agora um arame ia pegar bem pra ele pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.
Obrigada, doutor! Ha 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 ha!